les chemins de traverse, escapade à Belle-Île en mer, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans cette série des chemins de traverse, je vous emmène pour une escapade sur l'aînée des îles du Ponant. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différentes facettes d'un bout de terre riche d'un patrimoine historique et naturel. Bonjour et bienvenue pour une visite insolite de la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île en mer. Dans cet épisode, suite à la fois de la visite du phare de Belle-Île et de la rencontre avec un de ses gardiens, Michel Granger. Lors de notre rendez-vous précédent, nous étions tout en haut du phare sur la plateforme et avec Michel Granger, nous étions en train de découvrir son lieu de travail, la centrale de surveillance des phares du Morbihan. Avant de poursuivre cette visite du lieu de travail de Michel Granger, je vous propose de nous retrouver tout en haut du phare, à l'air libre. De là-haut, on voit parfaitement tout le domaine du phare. On a vraiment une belle vue. En plus, aujourd'hui, le temps est dégagé, mais il y a quelques petits nuages, donc ça donne du contraste. Bon, mais il ne nous reste plus qu'à redescendre. Chemin inverse. Nous revoilà au niveau du lit clos. Nous allons redescendre le dernier escalier métallique. Là, nous revoilà au premier niveau. Nous redescendons l'escalier en granit. Le phare a une hauteur totale de 52 mètres, soit un immeuble de 17 étages. Il y a 43 mètres au balcon, où nous étions tout à l'heure, où l'on arrive donc après avoir gravi 247 marches. Et le phare est à 92 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors là, on rentre dans une autre pièce.
On rentre dans une salle où on ne voit que des ordinateurs. Donc de ces ordinateurs-là, on peut faire le contrôle de nos feux dont je parlais tout à l'heure, de nos établissements.
Michel Granger, gardien de phare.
Un ordinateur est consacré au télécontrôle des feux. Les autres ordinateurs à côté nous permettent de contrôler le réseau GPS différentiel, qui sont des stations terrestres destinées à améliorer la précision de la position GPS. On peut accéder aux stations GPS différentielles par liaison Internet et ainsi faire du téléparamétrage ou du télécontrôle de ces stations à distance. D'accord. Donc les stations GPS différentielles, il y en a 7 en France métropolitaine, situées sur le littoral de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée. Et nous avons une 8e qui est située en Guyane. Et comme on se connecte à ces stations par liaison Internet, donc on n'a pas de notion de distance. Donc en trois clics d'ordinateur, on rentre dans la station de l'île de Groix à côté ou dans la station de Cayenne à l'autre bout du monde. Donc le métier a bien évolué, comme on disait tout à l'heure. Oui. Et puis on a une fonction aussi transmission de l'information nautique. Hein, quand un établissement ne fonctionne pas, lorsqu'un phare est éteint par exemple, notre priorité c'est d'avertir les usagers de la mer, donc les marins, et pour ce faire donc, nous diffusions des avis signalant que le phare ne fonctionne pas ou est en intensité lumineuse réduite s'il marche sur sa lampe de secours par exemple. Nous servons la préfecture maritime de Brest qui est chargée de rediffuser par VHF au bateau les anomalies qu'on a pu leur faire parvenir, dont ce qui concerne le balisage, quoi. Donc voilà, notre rôle immédiat lorsqu'un phare ne marche pas, c'est d'assurer cette diffusion d'informations pour que les usagers soient avertis, quoi. Et le lendemain, bien sûr, on va dépanner notre établissement, ou le plus tôt possible en tout cas, pour qu'il retrouve son fonctionnement normal, le plus tôt possible.
les chemins de traverse, escapade à Belle-Île-en-Mer.
Plus que 90 marches, et nous avons dû retourner sur la terre ferme.
Ce qu'on peut dire de l'établissement ici aussi, c'est qu'il y a trois périodes de construction complètement différentes. Tout à l'heure, on a parlé de la construction du phare, qui a été achevée en 1835. Il a fallu 6 années de construction pour construire ce phare, là quand même, hein. Il est tout en granit. Et sur Belle-Île, comme il n'y a pas de granit naturel, la roche de l'île, c'est du schiste. Donc on imagine bien que toutes ces pierres ont été importées par bateau à voile. Et par charrette, à bœufs ou à chevaux, après, pour jusqu'au phare ici, pour construire cet établissement. Donc 6 années de construction pour construire le phare. Les logements de fonction que l'on occupe toujours ont été construits dans les années 1890, donc 1835 pour le phare, 1890 pour les logements de fonction. Et le grand bâtiment dans lequel on est beaucoup plus récent, puisqu'il date de 1952. Et il a remplacé un premier bâtiment qui abritait déjà les premiers groupes électrogènes. Et celui-ci avait été fait de cette manière un peu plus ample, un peu plus grande, pour renfermer, comme je disais, tous les différents groupes électrogènes et les compresseurs d'air pour la sirène de brume. Donc trois périodes bien distinctes de construction pour tout cet ensemble de bâtiments.
Alors avant qu'il y ait les bâtiments pour les gardiens, ils logeaient où nos gardiens là ?
Alors, quand vous allez monter au haut du phare, vous verrez qu'il y a un lit clos là-haut. Donc c'était un lit qui était occupé par le gardien qui attendait son travail ou qui venait de finir son travail, puisqu'il venait à deux pour assurer la nuit complète de travail là-haut à l'époque où le phare fonctionnait avec des lampes à huile ou à pétrole. Et les gardiens habitaient dans les villages de Belle-Île, donc c'est pour ça qu'ils venaient à pied le soir pour passer la nuit au phare. Et seul le chef du phare habitait sur place, et au premier niveau du soubassement de la tour, il y avait le logement, un seul logement, qui était occupé donc par le responsable du phare, et les gardiens donc, venaient juste pour faire leur service de nuit ici, et repartaient au petit matin chez eux pour se reposer et pour revenir le soir.
D'accord. Ben merci bien.
Ben, je vous en prie, bon séjour sur Belle-Île.
Merci.
Et voilà, on aperçoit la lumière du jour. Nous voilà au niveau du salon d'honneur, avec ses boiseries et son plancher tout en parquet. Et plus que 30 marches à descendre. Merci, bonne journée, au revoir.
Voilà sur la terre ferme, au pied du phare de Goulfard, au hameau de Kervilawen. Un grand merci à Michel Granger pour cette rencontre. Du phare, nous revenons vers le centre du hameau où nous allons emprunter le bus pour rejoindre une des plus belles plages de l'île, la plage de Donan. Pour rejoindre la plage de Donan sur la côte sauvage, entre la pointe des Poulains au nord et Port-Coton, trois possibilités s'offrent à vous. La première, la plus belle et la plus majestueuse, le sentier côtier. Deuxième possibilité, arriver par le petit hameau d'Anterre, au nord de la plage. Et le troisième accès, celui par lequel nous allons arriver avec le bus, par le hameau de Donan, au sud.
Le Donan, petit village de Belle-Île, petit hameau. De ce hameau, vous pouvez descendre à la plage par une petite route qui descend à travers une ria qui vous permet de déboucher sur cette plage. Alors de route, ça passe à un chemin, et de chemin, vous arrivez sur le sable, et là, en continuant, la plage se révèle à vous. Une belle et grande plage avec du beau sable, une plage coincée entre deux falaises rocheuses, falaises pas très hautes, mais qui protège bien la plage de la pleine mer, et derrière, la dune.
La plage de Donan se révèle somptueuse et dès que les conditions s'y prêtent, elle est l'un des plus beaux spots de surf et de bodyboard de Bretagne.
Une belle plage avec ses petits recoins, ses rochers éparpillés, surtout sur le côté gauche parmi lesquels on peut se promener. Rochers recouverts d'algues. La plage du Donant avec ses petites criques, parce que c'est vrai qu'il y a la grande plage, et puis après, de part et d'autre, et surtout du côté gauche, il y a plein de petites plages. Si on passe le long des rochers, dans les petites failles, etc., c'est vraiment un endroit superbe. C'est un vrai labyrinthe, et toujours du sable fin. Très très beau sable, magnifique. On se retrouve dans une autre petite crique.
Chemin de traverse, escapade de l'île en mer.
Après avoir profité de cette belle plage de Donant, nous reprenons le bus pour revenir au palais où nous allons descendre à la porte de Bangor. Le palais était autrefois la ville stratégique de l'île. En plus de sa citadelle Vauban, elle a conservé une enceinte urbaine fortifiée. Enceinte où est aménagée une promenade bien agréable et instructive entre les arbres et les vieilles pierres. Après la construction de la citadelle, Vauban avait prévu de continuer les fortifications de la ville. Les plans furent établis, mais faute de crédit, les travaux ne démarrèrent jamais.
L'enceinte urbaine du palais avec la porte Bangor qui permet de rentrer dans la ville. Enceinte qui est constituée de plusieurs casemates qui sont reliées entre elles par des galeries de communication. Enceinte urbaine qui date du 19e siècle.
C'est Bonaparte qui demanda la construction d'une véritable enceinte avec bastion et autres bâtiments militaires. Les travaux débutèrent en 1803 mais furent interrompus par la chute de l'Empire.
La porte de Bangor, ce passage voûté, construit sous le Premier Empire, traverse la contre-escarpe. Il communique avec deux corps de garde latéraux et les casemates. À l'extérieur, la porte était précédée d'un fossé franchi par un pont roulant escamotable. Porte de Bangor, d'où part la route en direction de Bangor.
Ce n'est qu'en 1861, sous le Second Empire, que la construction redémarra. Cependant, à peine terminée, vu les progrès de l'artillerie, l'enceinte se révéla obsolète.
La poterne du Réduigé, portant la date de 1862, ce tunnel voûté passant sous le rempart assure une communication entre la ville et l'intérieur de l'enceinte. Un passage protégé creusé en travers du fossé relie la poterne au Réduigé et abrite une citerne d'eau potable, la fontaine des sapeurs.
Une fois la porte de Bangor franchie et le Réduigé traversé, nous arrivons côté ville à la porte monumentale dite
la porte Vauban. Elle fut édifiée sous le Second Empire et ouverte à la circulation en 1864. Elle était précédée d'un fossé que franchissait un pont-levis à bascule. Elle présente du côté de la ville une imposante façade. Imposante façade avec deux escaliers qui partent chacun de chaque côté de la porte. Après avoir franchi la porte de Bangor puis celle de Vauban, la rue descend tranquillement vers les quais du port du palais.
Nous séparons le temps de descendre l'avenue Carnot jusqu'au quai du port. Au revoir et à très bientôt sur cette même antenne pour la suite de notre escapade à Belle-Île-en-Mer.